الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Donc nous allons commencer bientôt le deuxième cours dans l'explication des trois fondements du noble Cheikh Mohammed ibn Abdel Wahhab rahmatullahi alayhi. Le Cheikh dit rahimahullah: اعلم أرشدك الله لطاعته أن الحنيفية ملة إبراهيم أن تعبد الله وحده مخلصا له الدين وبذلك أمر الله جميع الناس وخلقهم لها كما قال تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ومعنى يعبدون أي يوحدون وأعظم ما أمر الله به التوحيد وهو إفراد الله بالعبادة وأعظم ما نهى عنه الشرك وهو دعوة غيره معه والدليل قوله تعالى واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. Donc le Cheikh nous dit rahimahullah: sache qu'Allah t'oriente vers son obéissance, que al-hanifiyya, c'est-à-dire la milla d'Ibrahim, consiste à adorer Allah subhanahu wa ta'ala l'unique en lui vouant un culte sincère. Et c'est cela qu'Allah subhanahu wa ta'ala a imposé à toute l'humanité, et c'est la raison pour laquelle il l'a créé. Comme il l'a dit lui-même dans son livre, subhanahu wa ta'ala, je n'ai créé les djinns et les hommes que pour qu'ils m'adorent. Et le terme m'adore signifie ici munifie. En outre, la chose la plus importante qu'Allah a ordonné de réaliser est le tawhid, c'est-à-dire l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui consiste à vouer une adoration exclusive à Allah, et la chose la plus importante qu'Allah a interdite est le polythéisme, c'est-à-dire le shirk, qui consiste à adorer une autre divinité avec lui. La preuve réside dans la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala: adorer Allah et ne lui donner aucun associé. Donc ici, la première chose, c'est ma'na al-hanifiyya. Donc, que signifie al-hanifiyya? Donc les savants ont dit: ma'na al-hanifiyya ma'khouzatun min al-hanaf wa huwa al-mayl. C'est-à-dire que c'est pris d'el al-hanaf. Et al-hanaf, c'est le fait de pencher. Se pencher, se tourner, donc se pencher. Wa qala ibn Mandhur: al-hanifiyya fi al-lugha al-mayl wal ma'na anna Ibrahima hanafa ila din al-islam ila din Allah din al-islam. Donc ici Ibn Mandhur a dit: al-hanifiyya dans la langue arabe, c'est al-mayl, c'est-à-dire le fait de pencher. Et son sens, donc sa signification, c'est que Ibrahim alayhi salam donc a penché vers la religion d'Allah, s'est tourné vers la religion d'Allah, c'est-à-dire la religion de l'islam. Et ce qui est voulu ici par al-hanifiyya, c'est le tawhid. C'est donc le fait d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala seul, sans rien lui associer. Et donc le fait de lui vouer un culte exclusif, c'est ce que veut dire al-hanifiyya. Car les savants ont dit que c'est al-mayl ani shirk ila al-islam wa al-tawhid. Donc c'est le fait de se détourner du shirk et de se tourner vers le tawhid. Donc c'est ce que veut dire al-hanifiyya. Et il faut savoir que Cheikh Mohammed ibn Abdel Wahhab rahimahullah ta'ala, donc ici a affilié ou a attribué al-hanifi à Ibrahim pour deux raisons. La première, c'est que donc Ibrahim alayhi salam, c'est le père de tous les prophètes, wa huwa yani abul anbiya. Et la deuxième raison, c'est que les versets donc dans lesquels Ibrahim a été mentionné, donc dans lesquels Ibrahim était mentionné, ou bien al-Hanifi a été mentionné, il y avait donc le nom d'Ibrahim à côté. Donc le nom d'Ibrahim alayhi salam a été mentionné avec al-Hanifiyya, comme il a été rapporté dans la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala: wattabi' millata Ibrahima hanifa. dans, ainsi que dans la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, ma kana Ibrahim yahoudiyan wala nasraniyan walakin kana hanifan muslima. Et la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, inna Ibrahim kana ummatan qanitan lillahi hanifan walam yaku min al mushrikin. Donc Allah subhanahu wa ta'ala dit, suis la religion d'Ibrahim qui était voué exclusivement à Allah et n'était point du nombre des polythéistes. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit, Ibrahim était un guide parfait, il était soumis à Allah, voué exclusivement à lui, et il n'était point du nombre des polythéistes. Allah dit, subhanahu wa ta'ala, Ibrahim n'était ni juif ni chrétien. Il était entièrement soumis à Allah, c'est-à-dire un musulman, et il n'était point du nombre des polythéistes. Ensuite, il faut savoir que Hanifiya, c'est la religion de tous les prophètes. Et c'est pour cela qu'Allah subhanahu wa ta'ala a créé les êtres humains. C'est pour ça que le Cheikh dit dans son matn d'Al-Usul al-Thalatha, wa bidhalika amara Allah jami'an nas wa khalaqahum laha. C'est-à-dire, c'est pour cette chose-là qu'Allah subhanahu wa ta'ala a créé donc les êtres humains, donc pour Al-Hanifiyya. Donc Allah subhanahu wa ta'ala a créé les êtres humains pour qu'ils l'adorent. Il ne les a pas créés pour qu'ils mangent ou pour qu'ils boivent ou pour qu'ils s'amusent. Il a créé les êtres humains pour qu'ils l'adorent, subhanahu wa ta'ala. Et il faut savoir que donc, cette adoration-là ne peut être valide jusqu'à ce que le serviteur adore subhanahu wa ta'ala en l'unifiant. Et quiconque donc adore Allah subhanahu wa ta'ala en lui associant qui que ce soit, alors son adoration sera rejetée, elle ne sera pas acceptée. Ensuite, le Cheikh il argumente par le verset donc qu'Allah a mentionné dans le Coran, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. C'est-à-dire, je n'ai créé les djinns et les hommes que pour qu'ils m'adorent. C'est-à-dire afin qu'ils m'adorent. Et ici, il dit, ma'na ya'budun et yuwahidun. Et ça, ça a été rapporté par Ibn Abbas, radiallahu anhuma, dans lequel il dit, kullu mawdi'in fil Qur'an u'budullah ma'nahu wahidullah. C'est-à-dire, tout endroit dans lequel il a été rapporté adorer Allah, cela signifie donc unifier Allah subhanahu wa ta'ala. Donc le tawhid est la chose la plus importante qu'Allah subhanahu wa ta'ala ait ordonnée, et la chose la plus importante à laquelle les prophètes ont appelé. De Nuh alayhi salam jusqu'au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, ils ont tous appelé au tawhid. Et c'était la chose la plus importante à laquelle ils ont appelé alayhim as-salatu was-salam. Allah dit dans le Coran, wa laqad ba'athna fi kulli ummatin rasulan an ya'budu Allaha wajtanibu at-taghut. Ça c'est donc de manière générale. Allah subhanahu wa ta'ala dit de manière générale, nous avons envoyé dans chaque communauté un messager pour leur dire, adorez Allah et écartez-vous du taghut. Et ensuite, il dit de manière spécifique, en mentionnant certains messagers. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala dit par exemple, en parlant de Nuh alayhi salam, وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَقَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ. C'est-à-dire, il dit, nous avons envoyé Nuh vers son peuple. Il dit, ô mon peuple, adorez Allah, pour vous pas d'autre divinité qui mérite d'être adorée que lui. Et ensuite il dit, en parlant de Hud alayhi salam, ya qawmi abudullaha ma lakum min ilahin ghayru. Ô mon peuple, adorez Allah, pour vous pas d'autre divinité qui mérite d'être adorée que lui. Ensuite, il dit concernant, donc en parlant de Salih, du prophète Salih alayhi salam, Ya qawmi abudullaha ma lakum min ilahin ghayru. Ô mon peuple, adorez Allah. Pour vous, pas d'autre divinité qui mérite d'être adorée que lui. Et ensuite, il dit, en parlant de Shu'aib, Ya qawmi abudullaha ma lakum min ilahin ghayru. Donc, ô mon peuple, adorez Allah. Pour vous, pas d'autre divinité qui mérite d'être adorée que lui. Donc, on voit ici que le tawhid était la religion et ce à quoi ont appelé tous les prophètes alayhi salam. Donc c'est la base du prêche des prophètes. Et celui qui appelle au tawhid les aura certes pris comme exemple. C'est pour ça qu'il était important d'appeler au tawhid. Justement pour prendre comme exemple ces prophètes-là. Et il n'y aura aucune bénédiction dans une prêche qui ne commence pas par le tawhid. Même si certains peuvent dire que le tawhid divise ou autre, néanmoins, nous on regarde à quoi ont appelé les prophètes. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, pendant 10 ans, il a appelé qu'au tawhid. Donc il faut savoir que le tawhid ne divise pas les gens. Naam, il divise entre le kufr et l'islam, entre l'islam et le shirk. Mais le tawhid, il est plutôt là pour unir les gens et non pour les diviser. Ensuite, les savants ont dit que le tawhid a de nombreux mérites, d'où y a ni son importance. Il faut savoir qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a créés pour le tawhid. Allah dit dans le Coran, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Donc je n'ai créé les djinns et les hommes que pour qu'ils m'adorent. Et il faut savoir qu'Allah subhanahu wa ta'ala n'accepte aucun acte sans le tawhid. C'est-à-dire, les actes du serviteur ne sont acceptés que si ce serviteur-là vient avec le tawhid. En dehors de cela, aucun acte n'est accepté. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans un hadith qudsi qui a été authentifié, qui est authentique, Ana aghna shuraka yani shirk man amila amalan. Allah dit dans un hadith d'un Qudsi, je suis celui qui se passe le plus d'associer quiconque accomplit une œuvre où il m'associe à un autre, je le délaisse lui et son association. Troisièmement, n'accédera au paradis que le monothéiste, c'est-à-dire il n'y a que le monothéiste, celui qui adore Allah subhanahu wa ta'ala seul sans rien lui associer, qui rentrera au paradis. Et il a été rapporté aussi dans un hadith authentique, Inna Allah harrama 'ala an-nari man qala la ilaha illallah yabtaghi bidhalika wajha Allah. Certes, Allah a interdit le feu de l'enfer à celui qui dit la ilaha illallah et veut par cela le visage d'Allah. Ensuite, quatrièmement, il est une cause de l'augmentation des bonnes actions et un moyen de faire disparaître les péchés. Comme cela a été rapporté par At-Tirmidhi, avec une bonne chaîne de transmission selon Anas, Allah subhanahu wa ta'ala dit, Yabna Adam, law ataytani bi qurabil ardi khataya thumma laqaytani la tushriku bi shay'a la ataytuka bi qurabiha maghfira. Allahu Akbar. Allah dit, ô fils d'Adam, si tu venais à moi avec des péchés qui empliraient la terre et qu'ensuite tu me rencontrais sans ne rien m'associer, je viendrais à toi avec autant de pardon. Cinquièmement, le tawhid, donc, cinquièmement, c'est une cause donc de guider et de sécurité constante. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran, الَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا إِمَانَهُمْ بِظُلْمٍ أُولَٰئِكَ لَهُمُ الْأَمْنُ وَهُمْ مُهْتَدُونَ. Ceux qui ont cru et n'ont point entaché leur foi par quelque association, ceux-là ont la sécurité et ce sont eux les bien guidés. Ici, الظلم, c'est bima'na, donc الشرك. Le ظلم ici, l'injustice, c'est le shirk. Sixièmement, il est un moyen d'obtenir l'intercession du prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans un hadith authentique: As'adu an-nasi bi shafa'ati yawm al-qiyamati man qala la ilaha illa Allah khalisan min qalbi. C'est-à-dire les gens les plus en droit de mon intercession le jour du jugement sont ceux qui disent la ilaha illallah avec un cœur sincère. Et les savants ont mentionné bien d'autres mérites. Ensuite, ce sont les mérites du tawhid. Ensuite, on va mentionner le shirk. Sais-tu ce qu'est le shirk? Le shirk, c'est le seul péché, donc, qui n'a pas de shahwa qui appelle à celui-ci. Il n'y a pas de shahwa qui appelle à le connaître. Il n'y a pas de désir qui appelle à commettre ce péché-là. Car le voleur, lorsqu'il vole, il vole parce qu'il a un désir, il a une shahwa de voler pour avoir et pour posséder de l'argent. Tout comme le zani, celui-là qui fournique, il a un désir, c'est qu'il désire les femmes et il fournique pour cela. Tout comme celui qui boit de l'alcool ou autre. Tandis que le shirk, il n'y a aucun désir dans cela. Pourquoi le mouchrik fait du shirk? Qu'est-ce qu'il gagne dans cela? Rien du tout. Au contraire, subhanallah, c'est contraire à la fitra. C'est pour ça que c'est le seul péché qui n'a pas de désir à le commettre. Il n'y a aucune shahwa dedans. Subhanallah al-azim. Mais c'est plutôt une maladie dans le cœur. C'est par pure maladie que les gens ils font du shirk. C'est pas par désir ou autre. Deuxièmement, le shirk est le seul péché qu'Allah subhanahu wa ta'ala ne pardonne pas pour celui qui meurt sur celui-ci. Celui qui meurt sur le shirk, Allah subhanahu wa ta'ala ne lui pardonnera pas. Et tout autre péché est susceptible d'être pardonné si Allah subhanahu wa ta'ala le veut, sauf le shirk. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran: Inna Allah la yaghfiru an yushraka bih. Allah ne pardonne pas qu'on lui donne des associés. Troisièmement, le shirk est le seul péché qui conduit son auteur éternellement dans le feu de l'enfer. Ya ikhwa, c'est le seul péché qui conduit la personne éternellement en enfer. Comme il a été rapporté par Ibn Mas'ud dans le hadith que nous avons mentionné précédemment: Man mata wa huwa yad'u min dunillahi niddan dakhala an-nar. Celui qui meurt alors qu'il donne un associé à Allah subhanahu wa ta'ala rentrera au paradis. Et Ibn Mas'ud dit: celui qui entrera en enfer. Et celui qui dit, et Ibn Mas'ud a dit, celui qui meurt alors qu'il adore Allah subhanahu, qu'il a adoré Allah subhanahu wa ta'ala, qui lui a pas donné d'associé, entrera au paradis. Quatrièmement, le shirk est le seul péché qui annule toutes les actions et les rend vaines. Ya ikhwa, le shirk il annule toutes les actions. وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا وَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا. Nous avons considéré l'œuvre qu'ils ont accomplie et nous l'avons réduite en poussière éparpillée. Subhanallah. Supposons qu'une personne ait adoré Allah subhanahu wa ta'ala pendant 80 ans. On va dire 70 ans, 70 ans pour les Français qui écoutent. C'est-à-dire pendant 80 ans, cette personne-là a adoré subhanahu wa ta'ala, il était dans son obéissance, il a fait le hajj, il a fait la umrah, il jeûnait pour Allah subhanahu wa ta'ala, il priait pour Allah subhanahu wa ta'ala, il faisait du dhikr. Et juste un peu avant sa mort, il commet du shirk. Il lève ses mains, il dit: Oh Wali Fulan, donne-moi ton secours. Oh Wali Fulan, aide-moi. Oh Wali Fulan, donne-moi ma subsistance. C'est-à-dire qu'à la fin de sa vie, il adore autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala et vous une adoration à autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est combien de secondes, ya ikhwa, la phrase que je viens de dire? 2 secondes, 3 secondes? La personne qui dit oh, oh Foulane, oh Ali, donne-moi ton secours, je te demande ton secours ou autre. Combien? 3 secondes, ya ikhwa. Eh bien, toutes les actions qu'il a faites pendant 80 années sont réduites en poussière, subhanallah al-azim. Regardez le danger du shirk, ya ikhwa. Après, ils nous disent, Ahl bid'a, ils nous disent, arrêtez de parler de tawhid, de shirk, arrêtez de parler. Le seul péché, ya ikhwa, le seul péché qui annule toutes les actions et qui conduit son auteur en enfer éternellement. Et roi, éternellement. Si vous méditez rien que sur éternellement, si on vous met rien que dans un four pendant une heure, hein, une heure dans un four, qui sera patienté? Personne, c'est impossible. Compte un an, tu dis 1 million d'années, 1 milliard d'années. Non, et roi, il n'y a pas de fin. Éternellement, et roi. Et là, c'est pas un four. Là, c'est la chaleur de la chaleur qu'il y a en enfer n'est pas comparable à celle d'ici. C'est pour ça qu'il faut continuer, ya ikhwa, à appeler au tawhid et mettre en guerre contre le shirk. Et c'est aussi pour cela qu'il est obligatoire pour le croyant d'avoir peur du shirk et d'avoir peur de tomber dans le shirk. Et ya ikhwa, celui-là qui veut tester son cœur, et si qui veut tester sa peur du shirk, lorsqu'il entend le shirk, le mot shirk, ou qu'il entend les ulama parler de shirk, il n'a qu'à voir à ce moment-là son cœur dans quel état il est. Est-ce qu'il ressent de la peur ou pas? Si tu ressens de la peur quand tu entends le shirk, c'est qu'il y a du khair en toi, alhamdulillah. Si lorsque tu entends du shirk ou tu vois du shirk, tu ne ressens pas de la peur, c'est qu'il y a un problème, il y a un khil karim. C'est qu'il faut continuer à lire dans le tawhid. Il ne faut jamais cesser, quoi, de lire Kitab Tawhid, Al-Usul Al-Thalatha. Il faut toujours donner chaque jour son temps pour apprendre le tawhid. Et donc, plus la foi de la personne et son tawhid se renforcent, plus la personne aura peur du shirk. Et médite sur la parole d'Ibrahim alayhi salam dans le Coran. En parlant d'Ibrahim, il dit « وَجَنُوبَنِي وَبَنِيَا أَنَّعْبُدَ الْأَصْنَامِ » et « Préserve-moi ainsi que mes enfants de l'adoration des idoles. » Ibrahim alayhi salam, le père des prophètes, comme on a dit. Regardez qu'est-ce qu'il dit « Et préserve-moi ainsi que mes enfants de l'adoration des idoles. » Et Ibrahim al-Taymi a dit « وَمَنْ يَأْمَنَ الْبَلَى بَعْدَ إِبْرَاهِيمِ » et qui peut se sentir à l'épreuve, donc qui peut se sentir qui peut garantir qu'il ne sera pas touché par cette épreuve après Ibrahim, donc qui peut se sentir à l'abri de l'épreuve donc après Ibrahim, de cette épreuve là Et il faut savoir que les savants, ils ont dit que c'est en se sentant à l'abri de cette épreuve que les gens sont tombés dans le shirk. Lorsque la personne se sent à l'abri du shirk, c'est à ce moment-là qu'il va tomber dans le shirk. Qu'Allah nous en préserve. Donc le tawhid qu'Allah a ordonné est, hein, donc le fait « wa ifradullahi subhanahu wa ta'ala » donc bi rububiyyatihi wa uluhiyyatihi wa asma'ihi wa sifatihi. Donc le tawhid, c'est le fait d'unifier Allah subhanahu wa ta'ala dans sa seigneurie, c'est-à-dire dans ses actes, dans son adoration et dans ses noms et ses attributs. Ça, c'est le tawhid. Et le fait d'unifier Allah subhanahu wa ta'ala dans sa seigneurie consiste à ce que tu aies la conviction qu'Allah subhanahu wa ta'ala est le seul souverain, le seul créateur et le seul qui gère tout et administre tout. C'est ce que ça veut dire ici, le fait d'unifier Allah subhanahu wa ta'ala dans sa seigneurie. Donc c'est le fait d'unifier Allah subhanahu wa ta'ala dans ses actes. Le fait de dire que c'est le seul créateur, le fait de dire que c'est le seul qui donne la subsistance, le fait de dire que c'est le seul qui donne la mort, la vie, c'est le seul qui gère tout. Et le fait d'unifier Allah subhanahu wa ta'ala dans son adoration consiste à ce que tu aies la conviction que c'est le seul qui mérite d'être adoré, subhanahu wa ta'ala, et que tu ne voues aucune adoration à autre que lui, subhanahu wa ta'ala. Et le fait d'unifier Allah subhanahu wa ta'ala dans ses noms et ses attributs consiste à ce que tu décrives Allah subhanahu wa ta'ala comme il s'est décrit lui-même dans son livre et comme l'a décrit son prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc le shirk ya ikhwa se divise en deux catégories. Il y a al-shirk al-akbar wa al-shirk al-asghar, c'est-à-dire le shirk majeur et le shirk mineur. Donc le shirk majeur, on a dit, c'est celui qui fait sortir de l'islam, et le shirk mineur, c'est celui qui ne fait pas sortir la personne de l'islam. Donc le shirk majeur, ya ikhwa, c'est le fait de prendre un égal avec Allah subhanahu wa ta'ala. Il l'adore comme il adore Allah subhanahu wa ta'ala, et celui-ci fait sortir de l'islam. Et par exemple, il peut donc se produire dans la croyance comme il se produit dans les actes et comme il se produit dans les paroles. Donc un exemple, par exemple, du shirk dans la croyance, c'est le fait de croire qu'autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala mérite l'adoration en dehors d'Allah. Donc un exemple de shirk dans la croyance, c'est le fait de croire qu'un autre qu'Allah, donc qu'autre qu'Allah, mérite l'adoration en dehors d'Allah. Un exemple de shirk dans les actes, c'est le fait de sacrifier pour autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Le fait de sacrifier une bête pour autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est un shirk dans les actes. Et parmi donc les formes de shirk dans les paroles, c'est le fait d'invoquer autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala, comme le fait d'invoquer les morts en disant ô wali un tel, donne-moi la subsistance, ou ô wali un tel, donne-moi ton secours, ou autre. Ensuite, en dessous du, donc on peut dire que il y a trois autres formes de shirk en dessous du shirk majeur qui sont liées à ce shirk majeur, trois catégories de shirk. Le shirk dans la seigneurie, c'est-à-dire c'est le fait d'associer autre qu'Allah à Allah dans ce qui est propre à sa seigneurie, comme par exemple le fait de dire un tel créé avec Allah subhanahu wa ta'ala, un tel gère l'univers avec Allah subhanahu wa ta'ala, un tel donne la subsistance avec Allah subhanahu wa ta'ala, comme font par exemple Roulat al-Soufiya. Ensuite, et Allah subhanahu wa ta'ala dit concernant ça, donc dans cette forme de shirk, existe-t-il en dehors d'Allah un créateur qui du ciel et de la terre vous attribue votre subsistance, point de divinité digne d'adoration à part lui? Comment pouvez-vous vous détourner de cette vérité? Ensuite, il y a le shirk dans son adoration, c'est-à-dire le shirk dans l'uluhiyya, et c'est le fait d'associer autre qu'Allah à Allah dans ce qui est spécifique ou ce qui est propre à son adoration, comme par exemple le fait d'invoquer les morts, comme par exemple le fait aussi de se prosterner à autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala, comme le fait de sacrifier pour autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Tout ça c'est du shirk qui est lié à l'uluhiyya, à l'adoration. Allah subhanahu wa ta'ala dit concernant cela, et parmi les hommes il en est qui prennent en dehors d'Allah des égaux à lui en les aimant comme on aime Allah. Ensuite il y a le shirk dans ses noms et ses attributs, et c'est le fait d'associer autre qu'Allah à Allah dans l'un d'entre eux, dans ses noms et ses attributs. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran, et il n'y a rien qui lui ressemble, et c'est lui l'audient, le clairvoyant. Donc, لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٍ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ. Ensuite, il y a le shirk mineur. Le shirk mineur, c'est tout acte qui est un moyen de tomber dans le shirk majeur. Donc toute parole ou tout acte qui a été désigné comme étant du shirk dans la législation. C'est-à-dire qu'Allah subhanahu wa ta'ala ou le prophète sallallahu alayhi wa sallam ont dit que cette chose-là était du shirk. Mais cet acte-là ne fait pas sortir son auteur de l'islam. Et il se divise en deux catégories, comme le mentionne Cheikh Saleh Al-Fawzan. Il y a le shirk mineur apparent, c'est-à-dire le shirk al-zahir, comme disent les ulama. Et c'est celui qui concerne les actes et les paroles. Donc ici, le shirk apparent, le shirk mineur apparent, concerne les actes et les paroles. Par exemple, un exemple de shirk dans les paroles, c'est le fait de jurer par autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Comme les gens, par exemple, qui jurent sur la tête de leur mère, ou qui jurent par plein de choses sauf par Allah subhanahu wa ta'ala, qu'Allah nous en préserve. Et c'est un fléau de nos jours, subhanallah. Le nombre de personnes qui jurent par autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans un hadith authentique, celui qui jure par autre qu'Allah a mécru ou a donné des associés à Allah subhanahu wa ta'ala. Et parmi les exemples du shirk, c'est-à-dire apparent dans les actes, comme le fait de porter des amulettes ou autres pour éloigner le mauvais œil. Et il faut savoir ici que les savants, ils ont dit que celui qui porte, qui accroche une amulette ou autre pour éloigner le mauvais œil, s'il voit que cette chose-là est une cause, à ce moment-là, ça rentre dans le shirk asghar. C'est du shirk mineur qui ne fait pas sortir de l'islam. Car lui, il dit que cette chose-là est une cause. Mais celui qui éloigne cette chose-là, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Mais cette chose-là n'est qu'une cause pour éloigner le mauvais œil. Quant à celui qui dit que cette amulette qu'il a accrochée éloigne le mal par elle-même, à ce moment-là, ça fait sortir de l'islam. Ça devient du shirk akbar qui fait sortir de l'islam. Ça devient du shirk majeur. Et donc la deuxième catégorie, c'est le shirk al-khafi, comme ils disent les ulama. Le shirk al-khafi, c'est le shirk caché. Et c'est celui qui concerne les intentions. Donc, celui qui concerne les intentions. Comme l'ostentation. Ensuite, pour terminer, hier, on va mentionner les différences qu'il y a entre le shirk et l'akbar. Donc, le shirk majeur et le shirk mineur. Donc, le shirk mineur, le shirk majeur, Allah subhanahu wa ta'ala ne pardonne pas à son auteur, sauf s'il se repent avant. Donc, si la personne se repent du shirk majeur, Allah subhanahu wa ta'ala lui pardonne. Mais s'il meurt sur cela, yani Allah subhanahu wa ta'ala ne lui pardonnera pas. Quant au shirk mineur, les savants ont divergé en deux avis. Certains ont dit que celui qui meurt sur le shirk asghar, en faisant du shirk mineur, eh ben il est sous la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala. S'il veut, il lui pardonne, et s'il veut, il le châtie. D'autres savants ont dit que s'il meurt sur du shirk mineur, Allah subhanahu wa ta'ala ne lui pardonnera pas. Néanmoins, il ne sera pas éternellement en feu de l'enfer. C'est-à-dire qu'il sera châtié. Il ne lui pardonnera pas ce shirk-là. Il sera châtié, mais il ne sera pas éternellement en enfer, comme on va le voir maintenant. Et c'est deux avis des savants. C'est pour ça, c'est là qu'on voit le danger du fait de jurer par autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala, qui est un fléau de nos jours. Et des savants, ils voient que la personne, si elle meurt sur cela sans se repentir, elle ne rentre même pas sous la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est-à-dire qu'elle sera elle sera châtiée. Néanmoins, ça c'est un avis parmi les avis. Et nos savants, de manière générale, Allah, comme Cheikh Ibn Uthaymin et d'autres, eux, ils voient que celui qui meurt, donc celui qui commet du shirk mineur, eh ben lui, il est sous la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala, s'il veut, il le châtie, et s'il veut, il le pardonne. Deuxièmement, donc la deuxième différence, c'est quoi? C'est que le shirk majeur annule toutes les actions. Quant au shirk mineur, il annule seulement l'action qui a été confrontée à celui-ci. Donc, ça annule seulement l'action dans laquelle son auteur a commis donc, du shirk mineur. La troisième différence, c'est que le shirk majeur fait sortir son auteur de l'islam. Quant au shirk mineur, il ne fait pas sortir son auteur de l'islam. Et la quatrième différence, c'est que celui qui commet du shirk majeur, il sera éternellement en enfer. Et celui qui commet donc du shirk mineur, c'est comme les autres péchés. C'est-à-dire, si Allah subhanahu wa ta'ala veut lui pardonner, il lui pardonne. Et si Allah subhanahu wa ta'ala veut le châtier, il le châtie. هذا وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.